5.9. Il y a un avant et un après Vibratio.
Alors, nous sommes le samedi 3 octobre 2020. De quoi allons-nous deviser ce soir ? Alors, les faits déclencheurs remontent au mardi 25 août, le lendemain de la rentrée. La direction du site d'orientation de Pinchat, à Carouge, déclare avoir diffusé un message sur haut-parleur. Ça, c'était donc le jour de la rentrée, le lundi 24 août. Le message était le suivant, et je cite. Une tenue adéquate est exigée dans notre bâtiment. Pantalons, jupes, robes doivent être suffisamment longs pour dépasser les doigts de la main, bras tendus. T-shirt, top, marcel et robes doivent couvrir dos et ventre jusqu'à la ceinture. Les épaules doivent être couvertes. Les bretelles fines ne sont pas autorisées. Les chapeaux, bobs et casquettes doivent être ôtés à l'intérieur du bâtiment. Petite énumération. Et ça termine par les élèves n'ayant pas une tenue correcte seront habillé d'un grand t-shirt prévu à cet effet. Fin de citation. Alors on va revenir là-dessus. Le lendemain de la rentrée, donc c'était le mardi 25 août, deux garçons et 10 filles, et la disproportion n'est pas anodine, portant des vêtements jugés inadaptés par l'établissement, ont dû revêtir un t-shirt XXL portant l'inscription, je cite, « J'ai une tenue adéquate », fin de citation, pour pouvoir se rendre en cours, le t-shirt, le fameux t-shirt de la honte. Depuis a surgi, et c'est le sujet de nos discussions de ce soir, une pétition en ligne, qui a toujours cours, hein, que l'on peut toujours aller signer, que l'on invite à aller signer, on va donner le lien tout à l'heure. Alors de qui émane-t-elle? Quelle position campe-t-elle? Et quelles en sont les revendications? Eh bien, nous en parlons tout de suite. Après un petit extrait de cette même pétition que voici, je vais la lire. Alors, chère Madame Torasinta, cher département de l'instruction publique, alors, on le rappelle, Anne-Émerie Torasinta, donc est conseillère d'État genevoise en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, hein, le DIP. Le conseiller d'État, c'est donc le gouvernement de Genève. Hein. Alors, par la présente, nous souhaitons manifester notre colère et notre indignation face aux récents témoignages d'anciennes X et d'actuelles X élèves concernant les méthodes punitives sexistes et humiliantes appliquées dans les cycles d'orientation de Genève et par conséquent par le département de l'instruction publique. En tant qu'ancienne X élève, nous avons été replongés X dans les souvenirs d'une éducation publique, qu'elle soit primaire, obligatoire ou post-obligatoire, qui, pour beaucoup d'entre nous, a laissé des marques profondes par sa misogynie, son homophobie, son racisme, son classisme, sa grossophobie et son validisme. Il est inacceptable d'entendre qu'en 2020, les pratiques dites du t-shirt de la honte soit encore utilisé par l'éducation publique. Il est inadmissible qu'elles aient été utilisées ne serait-ce qu'une fois. Fin de la citation, c'est juste le préambule, le début de la pétition. Depuis, il faut également préciser que la députée d'ensemble à gauche, Françoise Niffler, a porté une motion au Grand Conseil, où elle dit, et je cite, « Les mises au pilori d'adolescentes et l'hypersexualisation du corps des femmes ne sont plus tolérées », fin de citation. C'est donc la première signataire de cette motion, considérant que l'école doit combattre le sexisme. Un avis partagé par la verte Katia Leonelli, que je cite également, « C'est le harcèlement sexuel qui doit être sanctionné, pas les jeunes filles », fin de citation. Cette motion a été refusée par le Grand Conseil. Et enfin, le mercredi 30 septembre, c'est donc tout récent, des élèves qui portant des pancartes, pardon, lors d'une manifestation pour protester contre le règlement vestimentaire du DIP, se sont rassemblés devant le collège de Pinchat. Alors voilà, le contexte est placé, il a été un peu long, je suis désolé. Bonjour à toutes, merci de votre présence. Et alors, si vous le voulez bien, pour commencer, eh bien, nous ferions un petit tour de table avec, voilà, prénom, pronom, comme on l'a fait un petit peu en off, mais ça c'est pour les gens qui vont écouter ce podcast, vos postures et vos positions individuelles et ou collectives, en gros, de où parlez-vous et qu'est-ce qui a motivé vos engagements? Qu'est-ce qui aimerait commencer?
On y va. Moi, c'est Zoé, je suis étudiante en sciences politiques à l'Université de Zurich, je suis en train de finir mon master, si tout va bien. Je suis aussi la co-rédactrice de la lettre que tu viens de lire, merci beaucoup, avec Aurélie qui est présente aussi. Et je suis membre d'une association qui s'appelle Mouvement des étudiantes unies pour les féminismes, le MEUF. qui a aussi été beaucoup porteur de ce mouvement. Et bah, je suis les. j'ai écrit en partie les revendications avec Coralie, et donc ce sont mes positions exactes. Moi, ma position, c'est aussi que je suis fâchée et que j'ai envie que ça bouge. Et ouais, je sais pas si je dois dire autre chose.
Bon, non, je crois que dans un premier temps, on va juste faire ce petit tour de table là, puis ensuite on entrera plus précisément en matière. Ouais. Je te remercie beaucoup, Zoé. Qui veut continuer ?
Alors, pour ma part, je m'appelle Coralie et je suis étudiante en master en philosophie contemporaine à la faculté des lettres à Genève. Et à côté de ça, je suis donc au MEUF, comme Zoé. Je suis aussi rentrée dans le collectif de la grève des femmes cette année et je fais partie d'un groupe de colleuses depuis 2 ans. Et je suis également co-rédactrice de la lettre que tu viens de lire. Et pour ma part, en soi, bon, c'est assez évident, mon parti est assez radical. Je suis contre ce règlement, foncièrement contre. Et comme Zoé l'a dit, je suis également très en colère contre ce qui se passe depuis tant d'années. Voilà.
D'accord. Je te remercie beaucoup, Coralie.
Merci.
Hello, moi je m'appelle Elsa, mon pronom c'est elle, je suis donc une ancienne élève de Jean Piaget, ce qui m'a fait aussi réagir par rapport à cette thématique là, mais je vais en venir plus tard. Je suis à Jeunesse Solidaire et puis voilà, je représente avec Ferial Balance Ton École, dont je suis cofondatrice et elle aussi. Nous excuserons Gloria qui ne peut pas venir ce soir, qui est aussi une cofondatrice.
D'accord.
Notre position, on est révoltés, tout simplement, de cette situation qui est toute, je n'ai pas les mots pour dire ça, c'est révoltant, aberrant et plein d'autres mots pour décrire cette situation.
Je te remercie beaucoup Elsa. Effectivement, comme tu viens de le dire, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard.
Oui, bonjour. Alors, je suis cofondatrice du compte Instagram Sexis Genève avec 5 autres personnes. Et mon pronom, c'est elle. Je suis ancienne étudiante au Collège de Genève et c'est aussi pour ça que cette histoire m'a particulièrement choquée parce que j'ai été moi-même confrontée en fait à des situations similaires et le fait que tout le monde en parle soudainement a été une sorte de libération. Et cette libération de la parole a tend à faire changer les choses. Et c'est tout ce qu'on veut, j'imagine.
Ferial, bienvenue également.
Yes, du coup, je gère le compte Instagram de Sexis... qu'est-ce que je dis ? De Balance Ton École avec Elsa. Et moi, j'étais... J'ai subi du racisme, du sexisme à l'école souvent parce que déjà je suis pas suisse, je parlais pas bien français non plus, vraiment genre là ça va, mais au début rien. Et du coup je me suis fait harceler beaucoup par des profs et aussi les élèves. Je suis bien énervée et ça m'a vraiment révoltée. Je voulais faire quelque chose que ça change parce que j'ai même essayé d'aller parler avec le directeur, les doyens de mon école, rien bougé. Du coup, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour faire bouger des choses. Mais vu qu'à l'école, ça ne marchait pas, on aurait dû faire un compte séparément.
Merci beaucoup. Alors, un grand merci à vous toutes de prendre du temps et d'être là, d'être assemblées pour qu'on parle de ce sujet qui est extrêmement délicat, effectivement. Pour commencer, j'aimerais savoir quel constat vous faites de cette situation-là. J'ai l'impression que c'est effectivement un capuchon qui saute. On observe, j'ai l'impression, mais peut-être allez-vous me démentir, une situation qui a été longtemps verrouillée, opaque, et qui enfin, eh bien, se débloque avec des témoignages, des prises de parole. Et c'est extrêmement intéressant de voir que ces témoignages ont pu surgir également via notamment Instagram, parce que je crois que c'est plus ou moins là que ça a débuté. Ça veut dire qu'il a fallu vraiment sortir complètement du cadre scolaire pour arriver à s'exprimer. Alors voilà, quel est le constat que vous faites sur l'école et est-ce que les propos que je viens de tenir sont pour vous relativement corrects ? je sais pas qui veut commencer à nous donner des éléments de réponse.
Moi, je peux commencer par dire quelque chose. Je pense que déjà, ces témoignages, ils sont sortis grâce à Sexisme Genève. Donc, faut le mentionner. C'est aussi pour ça que je voulais qu'elle soit là. Parce que ça vient d'eux et d'elles. Et c'est grâce à eux et elles qu'il y a eu que tout se débloque et que les paroles se délient.
Merci beaucoup.
Et les langues se délient. Et puis après, je pense que moi, j'aimerais bien reprendre les propos de notre chère Anne-Marie Torra-Santa qui disait que les enseignants sont le reflet de la société. Et ben, le constat qui est fait, c'est que les enseignants sont le reflet de la société et que cette société, elle est sexiste, qu'elle est homophobe, qu'elle est transphobe, qu'elle est raciste, qu'elle est grossophobe, qu'elle est classiste. Et que quand nous, on essaye de passer par le système et qu'on essaye d'aller les voir et de parler de ce qui nous arrive et de ce qu'on vit, et ben, on n'est pas pris au sérieux, on n'est pas écouté, exactement comme maintenant. Quand elle nous dit très frontalement qu'il n'y a absolument aucun sexisme dans l'éducation publique à Genève, alors que la société en est ternie, donc ça n'a aucun sens. Moi, je fais un constat assez positif en soi de ma scolarité publique. Je pense qu'en Suisse, on a beaucoup de chance. Après, quand on voit à quel point on n'est pas écouté là, maintenant, tout de suite, ce constat, il est un peu bouleversé de mon côté. Parce que ce que je pensais, c'est que je pensais vraiment que ça allait changer quelque chose et qu'on allait être reçu, qu'on allait être écouté, qu'on allait être cru, et que ces adolescentes allaient être écoutées, et c'est pas le cas.
D'accord. Des propos durs, mais tout à fait réalistes, si j'ai bien compris. D'autres envies d'expression concernant ce qu'on vient de dire ?
Oui, on a particulièrement été troublés par justement la violence de ces propos face à des adolescentes qui étaient en grande souffrance. Parce qu'elles avaient 11 ans et qu'il y avait des adultes qui étaient censés représenter une certaine autorité qui les avait sexualisées. Et maintenant qu'on a réussi à ébranler justement cette grosse machine, et ben j'ai l'impression que les réactions en face sont assez violentes justement envers ces filles qui ont parlé. Et on essaye de les décrédibiliser et je trouve... ça, assez horrible, en fait, parce que on essaye d'offrir avec Balance ton école vraiment un espace d'accueil et d'écoute pour toutes ces personnes. Et les personnes qui représentent une autorité réagissent de manière extrêmement violente. Et je pense que c'est très difficile pour aussi les personnes qu'on parlait.
D'autres personnes qui souhaitent s'exprimer ?
Moi, si c'est possible. Du coup, je voudrais aussi rajouter autre chose, c'est que Feria, Lauria et moi, on remarque beaucoup de témoignages qu'on reçoit sur Balance ton école. C'est surtout, on met la faute sur les élèves, comme quoi elles s'habillent de manière provocante et font en sorte qu'elles devraient à chaque fois se justifier pour ce qu'elles portent. Mais en soi, on oublie, et puis c'est bien qu'elles le revendiquent maintenant, qu'elles ne devraient pas se justifier et que leur corps leur appartient finalement. C'est leur corps, elles peuvent faire ce qu'elles veulent finalement. Et les professeurs l'oublient tout simplement et le DIP l'oublie que l'habillement est une liberté personnelle. C'est une liberté comme toute autre liberté qu'on devrait avoir nous les femmes ou tout le monde, les hommes, les non-binaires, n'importe quel genre, tout simplement. Ouais. Donc je reprends les propos de Zoé, c'est bien ça ? Oh, oui, de Zoé. En effet, oui, Sotora Sainte se contredit elle-même parce que les professeurs sont le reflet de la société, mais la société est profondément sexiste. Et c'est par l'éducation, c'est par le biais de l'éducation, et pas forcément que des élèves, mais aussi beaucoup les profs, parce que ce sont les profs le problème majoritaire, en fait. Le problème, le gros du problème, ce sont les profs, parce que c'est eux qui hypersexualisent les jeunes filles et les jeunes femmes.
Mmh. Voilà. Je voulais juste rebondir sur les propos en fait, de Torra-Santa et du DIP en général. Parce qu'il y a également l'intervention de Pretty qui était extrême et qui était très violente. Je pense que cette agressivité vient principalement du fait que cette lutte s'appuie sur un tabou qui existe depuis des années, le fait que les enseignants sexualisent leurs élèves, c'est quelque chose d'extrême, c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et c'est une thématique qui a été souvent mise sous le tapis. Pourquoi? Parce que ça développe des questionnements extrêmement problématiques qui font peur, en fait. Parce que ça fait partie d'un pilier de la société qui pourrait la faire s'effondrer totalement. Et je pense que le DIP a peur de parler de ça, parce qu'en fait, on est en train de parler de génération et de génération d'hypersexualisation de jeunes filles. Donc, cette agressivité, elle vient vraiment principalement de ça, j'imagine.
D'accord. Ok, merci beaucoup. D'autres propos ou je continue? Ok, je crois que c'est ok pour cette première question. Alors, comment sortir de l'impasse? Comment est-ce qu'on change tout ça? Ça me permet de vous questionner concernant eh bien, la culture du viol. En fait, c'est de ça dont on parle. C'est qu'effectivement, on est dans un carcan où des attitudes sont présentes depuis des temps immémoriaux, j'ai envie de dire, et qui se reproduit tout simplement à l'envi, continuellement, et dont on n'arrive pas à sortir. Vous venez d'ouvrir une boîte de Pandore, peut-être? Je pense qu'on ne pourra plus la refermer. En tout cas, on l'espère. Alors, selon vous, et ça me permet de vous questionner sur quelles sont les revendications qui sont contenues par cette pétition-là, comment change-t-on les choses, selon vous?
Le problème, c'est que cette situation, elle a été prise. On s'est dit, on va prendre le cas du t-shirt. On va juste prendre le cas du t-shirt, on va pas regarder plus loin que le t-shirt. Et le vrai problème, c'est que le t-shirt, pour moi, c'est un symptôme de quelque chose qui va mal depuis très longtemps en soi. C'est un mal parmi des autres, en fait. Ce qu'il faut, c'est complètement changer la manière dont on permet aux profs d'enseigner. Les chartes éthiques qui doivent être signées, est-ce qu'on sait qu'on doit écouter les victimes, on doit prêt à mettre son ego de côté, prêt à mettre l'idée qu'on a de notre établissement ou de ce qu'on représente, et de se dire, ok, comment est-ce qu'on devient meilleur, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit plus facile pour les personnes concernées par ce genre de choses de venir et de dire et de témoigner. Parce que là, en l'occurrence, il y a un immense problème de suivi, en fait. On devrait juste être écouté. Et c'est pour ça que nous, on voulait qu'il y ait une formation. On voulait qu'il y ait une formation qui soit accompagnée par des associations féministes et d'ailleurs des associations antiracistes aussi. Et je pense que des associations contre la transphobie, contre l'homophobie, ce serait tout pareil. Parce qu'en fait, comment croire qu'on peut faire ça tout seul sans l'aide des personnes concernées? Comment est-ce qu'on croit qu'on peut donner un règlement, enfin mettre un règlement sur pied en ne sachant pas ce qu'on combat pour de vrai? En l'occurrence, tout le monde croit que les profs sont parfaits, qu'ils font un zéro remarque, et puis on est un petit peu désabusé d'apprendre que, en fait, tous nos amis et toutes nos amies ont déjà entendu des remarques sexistes, racistes, transphobes, homophobes, et j'en passe. C'est constant, c'est toujours. Et donc là, il y a un côté où il faut aller dans les solutions, et c'est ce qu'on veut, mais c'est ce qui n'est pas apparemment entendu.
Je te remercie. D'autres propos?
Vous avez parlé de la culture du viol, et oui. Je pense que toute cette histoire de t-shirt de la honte montre à quel point la culture du viol est imprégnée dans la société et dans les pensées communes. La culture du viol, c'est le fait de rendre coupable, de culpabiliser la femme de sa propre présence dans l'espace public. Et ce qui est problématique dans les débats du t-shirt de la honte, c'est qu'on parle beaucoup de l'habillement. Il y a aussi toute cette histoire d'uniforme. Et en soi, ça va au-delà d'une question d'habit. En fait, c'est le regard, c'est la conceptualisation qu'on a du corps de la femme qui pose problème dans notre société. C'est pas du tout une question d'habit. À nouveau, revenir à l'uniforme, ce n'est pas une solution. Ici, le problème, c'est que la société est régie par la culture du viol, par la culpabilisation de la femme dans l'espace public et le fait également qu'on voit les garçons comme épris de leurs pulsions sexuelles, incapables de contrôler leur envie, leur désir. Et ça, c'est un problème qui est foncièrement imprégné dans notre société. Et c'est pour ça que le DIP a un peu... J'ai l'impression qu'il s'est un peu adonné à la politique de l'autruche, parce que se dire que la seule solution pour contrer ce règlement, ce serait de revenir à un uniforme, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je pense que vous êtes plusieurs à être d'accord avec moi. C'est vraiment mettre de côté le vrai problème, qui est en fait cette culpabilisation de la femme et ce crédit qu'on donne au jeune homme pour se positionner en tant que prédateur dans la société.
Ouais. Donc en fait, ce serait de traiter le symptôme. Ce ne serait que de traiter le symptôme, l'uniforme, alors que c'est le sujet de fond, évidemment, qu'il faudrait prendre à bras le corps.
C'est exactement ça, oui.
Donc, d'autres personnes veulent compléter, veulent ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais juste rajouter un détail. C'est vrai que j'ai eu un goût assez amer dans la bouche quand j'ai entendu, par exemple, que le directeur de Pincha avait été interpellé au sujet de ce t-shirt et qu'il avait simplement répondu que oui, alors c'était une pratique un peu dépassée, mais qu'on pouvait l'enlever si ça faisait plaisir à toutes ces féministes et puis que maintenant, ben, ça allait parce qu'il n'y avait plus de t-shirt. Et j'avais l'impression que, du coup, c'était vraiment, ben, juste un problème de t-shirt, et puis que si on enlevait le t-shirt, alors tout allait soudainement, comme par magie, aller mieux. Alors que, enfin, et justement, j'ai trouvé qu'il ne fallait pas s'arrêter là, et que c'est pour ça que toutes ces actions sont vraiment nécessaires, outre le fait de juste dire, voilà, il y a un t-shirt qui existe, et c'est scandaleux, d'aller plus loin.
Oui, je voulais aussi compléter juste un peu ce que disait Coralie, c'est que le fait, finalement, ce qu'on dit, c'est que vraiment, dans notre société, c'est que le corps de la femme est indécent. Donc du coup, puisqu'il est indécent, on doit le couvrir. Et ce qui fait que finalement, bah, mettre ce t-shirt est une énorme humiliation, et puis c'est clairement pas pédagogique. Et surtout, bah, le fait que le corps féminin doit se couvrir, bah, c'est donc les réacs de droite ou tout simplement les réacs antiféministes disent qu'il faut protéger nos jeunes filles parce que il y a des pédophiles, tout ça, que il y a des détraqués mentaux dans cette société. Mais non, c'est pas comme ça qu'on résout les choses. C'est avec l'enseignement, la formation prof-élève qu'on vient finalement au bout de ce problème, main dans la main, travailler ensemble pour finalement régler ce problème. Et oui, le fait de continuer à faire ces dictatures de la peur, en fait, finalement, à ces jeunes filles, bah ça nous fait, comme en tant que jeune femme que je suis, ça nous fait sentir comme des proies sexuelles tout le temps. Et ça veut dire qu'on doit plus, on doit plus sortir, on peut plus vivre, on peut plus rester ce soir, tard le soir avec des amis. Non, c'est pas comme ça. On voudrait vivre comme des êtres humains, tout simplement, en fait, comme des êtres humains normaux. Et puis pour reprendre aussi pour cette histoire d'uniforme, il n'y a pas que finalement, cette histoire de hypersexualisation du corps féminin qui fait que si je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous cherchez sur Google écolier, vous avez des illustrations normales d'enfants, et si vous cherchez écolière, il y a des tenues sexy entre guillemets et hyper provocantes. Donc c'est sexualiser as fuck le corps féminin. C'est pas possible. Genre en fait on est que des objets. C'est quoi ce bordel? Du coup voilà. Il y a aussi autre chose. Dans certains règlements aussi, ils concernent aussi les jogging, les sweaters, les casquettes et tout, qui est réellement une stigmatisation de certaines classes sociales, qui est la classe sociale des prolétaires, qui est la classe sociale des ouvriers, bref, vraiment des classes sociales basses. Et finalement, bah, avoir un uniforme, c'est vraiment mettre sous le tapis les inégalités sociales, pour moi, et les inégalités économiques. Pour moi, c'est ça. Il y aura vraiment, pour moi, un gouffre entre les classes, et justement, encore, au lieu de gommer les inégalités, on va les renforcer encore plus. Et à mon avis, il y aura le même phénomène, je ne sais pas si vous êtes au courant, à l'époque, dans les années 40, en Italie, les camicie sporche, qu'on appelait ça, c'est-à-dire les chemises sales, c'est-à-dire que les enfants qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ou leurs familles n'ont pas beaucoup d'argent et que voilà, leur uniforme est sale, ils peuvent pas le laver, donc du coup il va se déchirer et ils peuvent pas en racheter un. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon ils seront stigmatisés, ces pauvres enfants, de toute façon. Donc je préfère que les jeunes adultes et que les ados aient une propre individualité. Donc quand ils vont en cours, quand ils vont à l'école, parce que en soi avec l'uniforme, on gomme finalement c'est entre guillemets pas harmonisé, mais tout comment on appelle ça, j'ai pas les mots.
Oh, ça va revenir.
J'ai pas le mot. Mais c'est tout. En gros, on perd l'individualité de l'élève et c'est tout. Et c'est tout faire d'un bloc, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Et pédagogiquement, c'est pas le meilleur non plus. Donc, du coup, voilà.
Donc, en tout cas, selon vous, il reste évidemment, tout reste à faire.
Exactement.
Ouais, ouais. Dites-moi, vous me faites signe, hein, si quelqu'un voulait prendre la parole. Sinon, je continue. Alors, c'est le fait des élèves, certainement, qui jugent, j'imagine, c'est le fait des profs, à ce que j'entends, qui ignorent ou qui tolèrent, je ne sais pas. Donc il va falloir tout changer. Et comme vous le dites, il va falloir changer les choses radicalement, il faut le faire dès maintenant. Vous, quel est votre état d'esprit Enfin, pour moi, l'école représentait une forme de sanctuaire où, effectivement, ces horribles choses qui ont lieu dans la rue, on sait les déambulations, les stratégies de déplacement que les filles doivent adopter, souvent, pour se protéger, notamment dans la vie nocturne. Enfin, il y a beaucoup de sujets comme ça qui, heureusement, maintenant sont du domaine public et les gens l'apprennent, beaucoup de gens qui ne le savaient pas. Oui, effectivement, je pensais que l'école était vaguement sanctuarisée, que ça ne se produisait pas au sein de l'école. Et vous dites que, en fait, c'est pas le cas. Vous avez également vous-même été victime, ou en tout cas, vous avez également eu des témoignages, que ce soit dans l'obligatoire, dans le post-obligatoire, qu'au sein de l'école, eh bien, on a ce problème-là qui est patent et qu'il est autant de la part des élèves, des étudiantes et des étudiants, que de la part des professeurs qui ignorent et également de, comment dire, enfin, du DIP finalement, en soi, des employeurs.
Alors, personnellement, j'ai l'impression que voir l'école comme un lieu vraiment où la protection des enfants est optimisée, c'est vraiment une idéalisation, en fait, du principe de l'école. Alors, soit par définition, ça devrait être ça, mais l'école en soi, même au niveau de la matière qui est enseignée, elle est problématique du début jusqu'à la fin. Prenons un exemple par rapport à l'histoire. Moi, j'ai étudié l'histoire d'un point de vue extrêmement colonialiste, pas du tout déconstruit, très occidocentré. Et ça, on peut faire cette approche par rapport à toutes les matières qu'on nous enseigne. Et comme d'autres personnes ont abordé maintenant, il y a toute une histoire de discrimination qui se crée au sein de la dynamique scolaire qui est très problématique. Il y a d'abord une hiérarchie qui s'instaure entre les professeurs, le corps enseignant en général et les élèves. Les élèves sont absolument pas entendus parce qu'ils sont directement infantilisés. D'où aussi le problème de rendre en fait ces témoignages tangibles et leur donner une place en fait. Les élèves ont vraiment pas du tout leur mot à dire. Ils doivent rester à leur place et ça c'est quelque chose qui s'inscrit depuis la nuit des temps. Cet abus de pouvoir, ce cadre extrêmement punitif qui rend le milieu scolaire très douloureux à vivre. Le principe d'omerta, par exemple, moi j'ai subi le harcèlement à l'école, des élèves qui tabassaient d'autres élèves, qui les humiliaient, etc. Les professeurs ne se positionnent pas par rapport à ça. Donc, au-delà de toute la dynamique sexiste, raciste, il y a également une validation, en fait, de toutes ces tensions qui peuvent se créer entre les élèves. Et ce mutisme qui se crée au sein du corps enseignant accentue la légitimité de toutes ces tensions et de ces bagarres, etc., qu'on peut vivre dans les préaux, dans les écoles.
Donc changeons le fond et changeons la forme, ou inversement. C'est-à-dire qu'il faut changer effectivement les contenus également. On peut prendre, effectivement, on voit que ce travail-là est en train, en tout cas, d'apparaître. Là aussi, sur le domaine public, on pourrait citer des collectifs comme l'Esquad, avec le projet Sans Elle, où le nom des rues sont féminisés, etc. Ça, pour vous, c'est une parmi les pistes intéressantes, ce serait d'avoir des contenus différents au sein des écoles également.
Oui, mais au-delà des contenus différents, il faut une formation. Mmh. Une formation qui soit revisitée vraiment jusqu'à la moelle, parce qu'il y a vraiment un grand problème. Les enseignants ne sont absolument pas sensibilisés sur les fondements même de la vie. Ils sont absolument pas. On ne les intègre pas dans toutes ces problématiques de vie qui font que des élèves sont prêts en fait à rentrer dans une société plus ou moins équilibrée. Et on est en train de parler d'une génération à venir, en fait, d'adultes en puissance. Donc, vous rendez compte qu'on est en train d'enseigner à des adultes en puissance tout ce qui est de l'ordre de l'opportunisme, tout ce qui est de l'ordre de la discrimination, tout ce qui est de l'ordre de la division des classes. C'est vraiment problématique.
Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Vous l'avez dit, il faut changer les choses radicalement. Ça veut dire changer la société également. Ça n'est pas qu'à l'école que ça se passe. C'est au-delà de ça. Alors, comment est-ce qu'on change la société ?
Comment changer la société ? Ça, c'est une très, très bonne question. Plein de philosophes ont essayé de la répondre, celle-là. Mais je vais essayer de ce que je peux. Comment changer la société ? Moi, je pense que par, justement, l'enseignement, et il faut le faire le plus vite possible, donner la parole plus aux élèves, parce que là, ce qu'on voit dans des témoignages, par exemple, les élèves n'ont pas la parole alors que c'est leur formation et leur avenir. C'est ça qui me paraît contradictoire. Et comment changer la société ? Instaurer dans les mentalités les idéaux féministes, pour moi, tout simplement.
Mmh. Ouais.
Tout simplement. Et puis surtout, faire des lois, par exemple, pour le consentement, qui est encore à revoir. Vraiment, par exemple, mettre en place une loi vraiment pour l'égalité salariale. Énormément de choses. Énormément. Par exemple, même si on a voté pour le congé paternité, mettre en place un congé parental, une année directement à séparer entre les deux conjoints, conjointes. Voilà, quelque chose, vraiment une société plus égalitaire par la loi et de facto aussi par la loi les faits, je pense. Voilà.
Alors, qu'en est-il de l'agenda ? Il y a eu ce rassemblement, on l'a entendu, on en a parlé. Y a-t-il des choses de prévues ? Est-ce que vous-même vous questionnez-vous sur les formes que ces luttes pourraient prendre, pourrait-elle continuer de prendre dans le temps ? Parce que, comme on l'a dit, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat qui est pesant, qui est probablement douloureux. Il y a effectivement des choses qui vont ressurgir, qui vont être compliquées. Alors, comment est-ce qu'on se prépare à une lutte longue et difficile ?
Je pense que c'est extrêmement difficile et c'est extrêmement frustrant, parce que je crois qu'il y avait cette partie où on était très heureuses et heureux de se rendre compte que ça avait été pris au sérieux et qu'il y avait cette motion au Grand Conseil, et de savoir que cette motion n'est pas passée, c'est frustrant, mais on s'arrête absolument pas. On le sait, il y a beaucoup de choses qui vont sortir, c'est quelque chose qui va se jouer sur longtemps, puisque ce qui sort maintenant, ça ne peut pas être ignoré. Il y a des choses qui sont sorties de justement Sexisme Genève et Balance ton école qui sont inadmissibles et dont le DIP doit répondre. En tout cas, pour moi, ce qui est entendu tous les jours par justement les créatrices de Balance ton école, ça doit être très très lourd, parce que c'est pas des petits détails, c'est pas des petites histoires, c'est pas des petites anecdotes, c'est extrêmement problématique. Et ça va venir. Ça, c'est certain qu'il y a des enquêtes qui se passent, il y a des rapports journalistiques qui vont sortir. Ça, on se fait pas de soucis. En attendant, il y a une manifestation mercredi, parce qu'on a obtenu le droit de la police. Et du coup, on va se retrouver mercredi 7. Mercredi 7, elles sont en train de me dire l'heure parce qu'elles sont en train de me faire des signes. Je ne sais pas à quelle heure c'est.
17h30.
À 17h30,
oui.
Mercredi 7 à 17h30, le rendez-vous est où ?
Devant l'hôtel de ville.
Ok, ici à Genève, devant l'hôtel de ville. D'accord.
Voilà, en vieille ville, devant l'hôtel de ville, pour gueuler notre mécontentement face à Thorin Sinta qui ne fait rien du tout. Voilà, je ne sens pas.
Et vous voulez annoncer peut-être déjà des prises de parole ? Est-ce qu'on sait que différents collectifs vont s'exprimer ou les gens, pour le moment, on maintient la surprise ?
Je ne suis pas sûre qu'il y ait de la surprise. Je sais que le MEUF sera présent d'une manière ou d'une autre. Je sais qu'il y aura des représentants du comité de la grève aussi. Je pense que Balance ton école et potentiellement Sexisme Genève seront là. Je ne veux pas parler si je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne serai pas là, mais je serai là dans ma tête, hyper fort, et je suivrai tout sur Instagram, comme d'habitude.
Très bien. Alors justement, vous êtes toutes dans des collectifs de personnes en lutte. Comment est-ce que les personnes qui vont nous écouter pourraient-elles vous rejoindre ? Voilà, est-ce que vous êtes plutôt sur les Instagram, sur les réseaux sociaux, site internet, ou est-ce que c'est au manif où vous parlez un petit peu autour de vous et puis vous invitez les gens à vous rejoindre pour, évidemment, faire nombre ?
Alors, en tout cas, pour Balance ton école, donc c'est sur Instagram. Si vous voulez témoigner de n'importe quelle violence, que ce soit sexisme, que ce soit racisme, que ce soit n'importe quelle violence qui est inadmissible, c'est sur Balance _ ton école collée. Voilà, sur Instagram. Mmh. Ou sinon par mail à balance ton école collée GNV, donc pour Genève, tout collé, @gmail.com.
Ok, voilà. Merci. D'autres personnes souhaitent donner des références?
Alors, pour Sexisme Genève, c'est donc sur Instagram, sexisme-genève, et vous pouvez témoigner sur toutes les violences sexistes que vous avez vécues à Genève ou dans les alentours. Ça peut toucher n'importe quel milieu ou problématique, n'importe quelle tranche d'âge ou même n'importe quel sexe. Nous, on est complètement open à tous les témoignages.
D'accord, merci beaucoup. D'autres références?
En ce qui concerne le MEUF, vous pouvez les trouver sur Instagram. Donc, c'est MEUF, EUFX. Pour l'inclusivité. Et voilà, c'est une association qui lutte plutôt pour un féminisme introspectif, le but étant de se déconstruire entre nous pour que notre lutte soit beaucoup plus effective.
Très bien, merci beaucoup. Aurais-je oublié quelqu'un ou quelqu'une, pardon? Non, c'est bon. Pardon, je suis désolé, je perds ma voix. Dites-moi, on arrive doucement. Caro, tu me fais signe, hein, vraiment, pour les questions. Mmh. J'aurais voulu vous questionner sur les retours. Depuis que voilà, cette marmite a un petit peu explosé, eh bien, j'imagine que des témoignages ont afflué. Ça, c'est super. Et puis, des personnes se sont peut-être révélées pour le meilleur et peut-être également pour le pire. Comment c'est autour de vous? Votre entourage, qu'il soit amical, familial, scolaire, comment est-ce qu'il perçoit ça? Est-ce qu'on sent qu'il y a une vraie prise de conscience en disant... Vraiment, on était dans le déni, ça suffit, quoi. Maintenant, on dit les choses et puis on fait quelque chose. Ou est-ce que vous êtes confronté également à des résistances, voire des personnes hostiles, voilà, qui tiendraient des propos? Parce que quand on parle de la pétition, de nouveau, que l'on trouve sur change.org, hein, par ailleurs, on mettra le lien, nous, parce que c'est un lien un peu compliqué à dire comme ça. On a effectivement, ben voilà, les partis d'extrême droite dont on voit bien les propos tenus et qui ont évidemment refusé en bloc cette motion. Voilà, on sent qu'il y a quand même, alors cette culture de viol clairement qui subsiste et qui s'accroche. Alors j'aurais voulu savoir vous dans vos réseaux, ben comment les gens ont perçu, reçoivent votre lutte.
Alors, en tout cas, pour Balance ton école, nous, dans notre entourage, on a eu beaucoup de compliments, on a eu beaucoup de soutien. D'ailleurs, on remercie beaucoup les personnes qui ont témoigné pour nous et qui nous soutiennent. Ça fait très chaud au cœur. On a reçu même du soutien pendant justement le rassemblement. C'était hyper chou. Vraiment, ça fait plaisir. On a une quantité astronomique, vraiment, quand je dis astronomique, de témoignages, ça fait vraiment... Si on ferait un graphique, ce serait monté en flèche comme ça. Oui, Feriel, dis.
Moi, normalement, je m'engage de mise en page. Du coup, il y a Elsa qui m'envoie les témoignages et je dois les stocker dans mes notes. Et il y avait au bout d'un moment plus de stockage dans mon attel. Du coup, j'ai carrément acheté du stockage pour pouvoir stocker les témoignages. Et on reçoit beaucoup de messages positifs, mais aussi on reçoit des messages qui nous contredit aussi.
Bah oui, bah, comme
c'est normal. C'est un réseau, tout
le monde, mais bon,
a le droit de dire ce qu'il pense. C'est normal, on peut pas nier qu'il y a des gens qui disent le contraire. Et aussi, il y a par exemple mon entourage, ils m'ont dit souvent, parce que nous on montre notre tête sur le réseau, et il y a des gens qui m'ont demandé si on a peur de montrer nos têtes ou si on aura des problèmes, si ça nous fait peur. Franchement, personnellement, j'ai pas peur parce que on lutte pour quelque chose de bien, on n'est pas des victimes. On est en train de vouloir changer quelque chose qui va mal. Du coup, on n'est pas censé se cacher. On est là pour aider les gens. Et en plus, je trouve que vu qu'on montre nos têtes, les gens nous font plus de confiance. Ils savent qu'on est des jeunes. On a subi la même chose à l'école, dans la vie. Je crois qu'il y a, ça crée un petit lien de confiance entre les gens qui puissent nous suivre et puissent nous voir.
Oui. Alors, en même temps, quand vous dites que de nombreux témoignages ont afflué, ça veut dire que même vous, depuis votre position là, n'avez pas l'idée complète de la mesure de ce truc. C'est affreux.
Enfin,
d'une certaine manière, c'est un constat horrible. C'est de dire qu'en fait, c'est carrément plus qu'on ne le pensait, même quand on sait que ça se passe déjà, quoi, et qu'on le vit soi-même.
C'est triste à dire.
Ouais.
C'est triste à dire, mais oui, on a beaucoup trop. Ça devrait vraiment. Moi, j'espérais qu'il y en aurait eu moins parce que ça veut dire que ce serait un tout petit problème. Mais malheureusement, il y en a énormément. Puis il faut régler ce problème. Et pour les commentaires négatifs, bon, bien sûr, ce sont des petits masculins ou moins antiféministes qui viennent pendant le rassemblement, au moins des petits masques. Vous pensez pas au Covid, tu fais quoi pour la société, pauvre tâche. Pardon. Du coup, oui, on soit aussi des trucs négatifs, mais ça se trouve, ils nous admirent parce que nous, on peut pas faire mieux qu'eux, de toute façon. Mais non, mais pour le fait de montrer nos têtes et tout, franchement, je pense que pour combattre l'oppresseur, il faut pas avoir peur de lui. Tout simplement. Pour combattre l'oppresseur, il faut pas avoir peur de lui. Et puis, je pense que c'est aussi une gage de confiance pour les personnes qui témoignent de voir, entre guillemets, l'identité des personnes. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire.
Ouais. C'est très suffisant. Une forme de empowerment, on peut dire. D'une certaine manière. Le fait de se dire, on s'empouvoirise et on fait front, quoi. En fait, on ne baissera plus la tête ni les yeux. On ne prêtera plus le flanc. Ouais, je comprends. Je comprends bien. Dites-moi, vous êtes étudiante, est-ce que vous avez également reçu des témoignages qui venaient de gens, de travailleuses et de travailleurs, quoi, enfin surtout de travailleuses. Est-ce qu'on perçoit que là-dedans il y a également des problèmes, qu'ils sont peut-être, qui sait, extrêmement nombreux aussi. Et est-ce que ça, c'est peut-être une des pistes pour la suite de vos luttes, c'est de non seulement parler de ceci au sein de l'école, mais également de toucher aux autres, vous l'avez déjà un petit peu dit, mais de toucher aux autres aspects de la société, et notamment un aspect majeur qui est celui du travail.
Justement, on a eu aussi des témoignages de personnes qui étaient au CFP, par exemple à Lullier et tout, et puis donc du coup qui sont en apprentissage, qui sont aussi en entreprise. Et en soi, mais il faut dire ce que c'est, le sexisme découle aussi du capitalisme,
oui.
De toute façon. Donc c'est de toute façon, je pense, moi je crois beaucoup en la convergence des luttes. Et si on veut rétamer le sexisme, il faut aussi rétamer le capitalisme.
On peut dire qu'il y a des racines communes là-dedans. C'est cette volonté.
Pour moi, oui.
Ouais, cette volonté de domination et d'écraser autrui. Avez-vous entendu, j'imagine que oui, mais parmi justement les mouvements de jeunes, notamment les mouvements de jeunes hommes, il y a cette émergence des incels, par exemple, et de mouvements un petit peu... Est-ce qu'il y a de cela... Très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous observez une émergence de ce type de mouvement-là également dans nos contrées, ou est-ce qu'au moins de ça, on est exempt?
Je pense qu'on peut jamais être exempt de l'adversité quand on est militante. Et c'est vrai que, évidemment, ces groupes masculinistes frappent et frappent absolument partout, parce que je pense que là où il y aura des féministes, il y aura forcément des hommes et des personnes pour les entraver dans leur lutte. Et c'est vrai que ça, des fois, ça pèse sur le moral, évidemment, parce que des fois, c'est beaucoup, et des fois, ça nous passe complètement au-dessus. Et c'est vrai qu'en tant que militante, on reste quand même des personnes, et que recevoir autant de témoignages de choses affreuses qui sont arrivées à ces gens, et en plus des gens qui nous disent qu'on ne va pas dans la bonne direction ou qu'on ne fait pas bien notre travail, c'est vrai que ça peut vraiment amener une sorte de fatigue militante aussi.
Comment vous... Oui, pardon.
Disons que... Désolé. Non, ça prie, disons que c'est vrai que c'est, ça peut être beaucoup des fois, et puis que ça peut être un peu décourageant. Mais dans la vraie vie, en fait, le truc, c'est que ce sont des personnes qui sont minoritaires dans la vraie vie et qui sont beaucoup là dans les réseaux sociaux. Mais en réalité, c'est une énorme... Les incels, c'est une extrême minorité dans la vie de tous les jours. Donc, en soi, faut se dire que c'est un petit Célestin qui s'est formé sur jeuxvideo.com et qui veut juste refouler de la haine au plus de femmes possible. Et de toute façon, la haine, ça n'a jamais gagné. La haine ne gagnera jamais. Et il ne faut pas se laisser décourager parce qu'on est forte, on est solidaire et on va y arriver ensemble, tout ensemble, main dans la main.
Mmh, très bien. Caro, as-tu des questions comme ça?
Moi, la question est un peu évidente, mais je pense que, est-ce que la société ne met pas trop l'accent sur la mode? Est-ce que la mode ne fait pas des femmes finalement des poupées Barbie et que il faudrait justement s'habiller différemment pour contrer la pression sur les femmes et sur les hommes?
Le truc, c'est comme elle l'a dit, la mode, c'est aussi le capitalisme. Et donc, on ne peut pas nier qu'il y a de l'oppression sexiste qui passe par la mode. Le problème, c'est que je pense que nous, on est une génération, une quatrième génération de féministes qui veulent que tout le monde ait le choix de s'habiller ou de ne pas s'habiller, d'avoir une jupe super courte ou de ne pas avoir une jupe super courte, de coucher si on a envie de coucher ou de ne pas coucher si on n'a pas envie de coucher. Et je crois que la question de l'habillement, elle est justement... Enfin, moi, j'aimerais beaucoup dire dans ma vie que, genre, je sais que si je peux me sortir comme je veux et que je peux être habillée comme je veux et qu'on va pas me faire de remarques. La vérité, c'est que c'est pas le cas. Ça, on le sait. Et je pense que le problème ne sera jamais la mode, ne sera jamais les habits. On le sait. Il y a eu des centaines d'expositions, des études. On sait comment les femmes sont, enfin, les femmes, et d'ailleurs, que l'habillement n'a rien à voir avec l'agression sexuelle, les commentaires, les viols. On le sait. Donc je pense que on peut questionner comment est-ce qu'on doit s'habiller et est-ce que on est en train de représenter un capitalisme sexiste ou non, un capitalisme patriarcal. Je pense que cette question elle est valide. Après, peu importe comment on s'habille, peu importe comment la mode dicte, parce que moi là je vois aussi une génération entière de filles qui mettent des t-shirts XXXL et par contre elles le veulent, hein, et qui sont habillées avec des qui skate et qui ont des jeans pas du tout moulants, etc. Et je pense que si on a ces conversations avec ces personnes, elles nous diront aussi qu'elles vivent du sexisme comme tout le monde. Donc je suis pas sûre que je mettrais la responsabilité sur la mode, mais plutôt sur comment est-ce qu'on éduque à recevoir cette mode.
Parce que finalement, si un homme il met pas de t-shirt, jamais on va le sexualiser son corps. Enfin, jamais on va penser.
La leçon numéro un, c'est
que ce soit plus équitable à ce niveau-là.
La leçon numéro un, c'est Instagram qui censure le téton féminin, mais pas le téton masculin. Mmh. C'est le numéro un. Un homme à torse nu n'est jamais sexuel. Une femme, même avec un t-shirt, qui a des, même si on voit son soutien-gorge sous son débardeur, est sexuel.
Est-ce que la mode japonaise peut être un pied de nez un peu au...
Alors, je suis pas assez experte, mais. Quoi qu'il arrive, on le vivra, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai vécu des situations sexistes en étant en gros training, gros dégueu, en train de sortir du sport, avec les cheveux gras dégueu. Et j'ai vécu ça aussi ça quand j'étais un petit peu plus jolie et que je faisais un effort. Et je continuerai à vivre ça en marchant dans la rue et en existant, tout simplement. Donc, comment je m'habille, je pense que ça importera peu à ce moment-là.
C'est important que chaque femme se sente confortable, peu importe ce qu'elle a mis, enfin, comment elle habille.
Ouais, on aimerait bien exister en paix, ce serait fou. Mm-hmm.
Alors, effectivement, il y aurait encore énormément de questions auxquelles on aurait envie de vous poser. J'aurais, par exemple, envie de vous questionner sur la vie, la nuit, les stratégies de déplacement, parce qu'on sait qu'elles sont jamais évidentes. Je pense qu'on va pas tout faire aujourd'hui. Par contre, clairement, si vous seriez d'accord, on renouvellerait ce type d'entretien pour parler de sujets extrêmement intéressants comme ceci. Pour nous, c'est très important et c'est une de nos centralités. Avant de, quand même, parce qu'on va arriver tout doucement à l'heure d'entretien, j'aurais encore deux petits, si vous avez encore 5 minutes, deux petits thèmes, et puis on s'arrêterait là, en se disant à la prochaine. Si ça vous va. Alors, c'était les deux choses. C'était un, l'espace public, mais très rapidement, effectivement, l'espace public est nourri de sexisme. On le voit bien avec ces énormes affiches, avec ces images qui sont données en pâture et qui sont là d'une manière à ce que tout le monde les voit sans arrêt. Et cette espèce de répétition, pour celles et ceux qui, comme moi, travaillent avec des très jeunes, avec des enfants, par exemple, on voit bien que au fur et à mesure, des représentations entrent dans l'esprit de petits garçons, par exemple, et de petites filles également, parce que leur déambulation, eh bien, côtoie ces images stéréotypées de corps hypersexualisés, là aussi, de postures comme ça, de voilà. Et voilà, est-ce que là, il y a quelque chose ? Alors, tout à fait, hein, je pense que l'anticapitalisme, là-dedans, a son rôle à jouer. On voit qu'on a une société marchande qui, effectivement, qui marchandise les corps également. Y a-t-il des luttes qui se joueraient là également ? Notamment, je dis ça parce que récemment, à Genève, vous le savez, il y a toute cette question des affiches publicitaires, de les virer. Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est également une piste que vous suivez. Ça, c'est le premier volet. Et puis, le deuxième petit thème encore, ce serait, voilà, concernant les médias de masse, on l'a vu. Vous-même, je pense que là, une fois que ce capuchon a sauté, vous avez été probablement questionné ou en tout cas relayé par des médias. Avez-vous la sensation de l'avoir été de manière conforme ou pas? On sait qu'il y a des collectifs, notamment, on va parler d'un institut qui est fantastique, qui est Décadré. Qui est un institut de formation et de recherche, hein, qui décrypte les champs sémantiques problématiques dans les mass médias. Voilà, est-ce que vous, du côté des médias, de la communication et des champs sémantiques, vous observez que là aussi, on est encore loin du compte? Donc première question, c'est lors des déambulations, l'espace public, de quelle manière est-ce qu'il vous parle? Comment est-ce qu'il vous fait réagir? Et également la même question concernant les médias et le traitement que les médias font de la problématique du féminisme et des violences sexistes.
Alors, pour la première question, personnellement, les publicités, évidemment, il y a une hypersexualisation et une mobilisation du corps, évidemment beaucoup plus féminin que masculin, qui est absolument aberrant, on est bien d'accord, mais moi, ce qui me choque le plus dans l'espace public, ce n'est pas tant les publicités, c'est plus le harcèlement de rue qui est extrêmement normalisé, extrêmement banalisé, et qui est accepté au sein de la société comme quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait ordinaire. Et ça devient vraiment chronique, en fait. Toutes les femmes vivent le harcèlement de rue quotidiennement. Et ce harcèlement de rue fait que on ne puisse pas intégrer l'espace public comme on le veut, comme on serait légitime à le faire. Et ce harcèlement de rue fait que, moi, personnellement, des fois, je me réduis à ne pas attirer l'attention, à ne pas intégrer ma présence dans la rue, etc. Et c'est plutôt ça qui me choque plus que les publicités. Mmh.
Qui voudrait ajouter quelque chose? C'est extrêmement dur d'entendre ces propos-là. Et... ouais.
Ben, moi, j'allais dire la même chose. Je savais pas si c'était important dans le débat. Mais les publicités ne me phasent même plus, en fait. C'est-à-dire que j'ai tellement l'habitude, ce qui est triste en soi, j'ai tellement l'habitude qu'elles soient là et qu'une pub pour un parfum, ce soit une femme parfaite, dénudée, sans rides, photoshopée de la tête aux pieds, que j'y réagis même plus. Moi, en fait, je revendique juste le droit d'exister dans cet espace public, tranquillou, de faire ma vie, de pas avoir à changer de trottoir instantanément. Avec mes copines, on marche et on voit très bien quand un groupe de garçons arrive, instantanément on change de trottoir, même sans avoir à en discuter, même sans se concerter. On le sait, un homme qui lève la voix dans la rue, on fait toujours attention. Est-ce que c'est quelqu'un d'ivre? Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait nous menacer? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous fait peur? Et c'est une question qu'on se pose tout le temps. Et en fait, des fois, je me dis que j'aimerais juste vivre une journée et ne pas avoir peur dans le cœur d'un homme. Et de savoir que je suis légitime sur le trottoir, aller marcher où je veux, même à la boulangerie, et qu'on m'embête pas, et qu'on me fasse pas peur, et que je me sente pas menacée par l'existence de quelqu'un, en fait. Et du coup, ils sont importants, hein, ces débats autour de la publicité. Mais moi, j'ai envie qu'on apprenne aux gens à vivre, j'ai envie qu'on apprenne aux hommes à nous laisser vivre, en fait. Et du coup, la publicité après, peut-être. Mais d'abord, laissez-moi aller au fitness tranquille. Oh!
Ouais. En tout temps et en tout lieu. Oui, Elsa.
En effet, comme a dit Zoé, je pense qu'il faut se réapproprier l'espace public en soi. Tout simplement parce qu'il est fait pour et par l'homme, en fait, depuis pas mal de temps. Hein, puis il est temps de changer ça. Et puis le fait de changer de trottoir, tout ça, comme ça, cette espèce d'instinct, mais c'est encore une fois, c'est quelque chose de proie, en fait, parce qu'on est vu comme des proies et on se sent comme des proies. Et ça, il faut absolument changer. Et pour la deuxième question de comment on voit les féministes sur les médias, c'est ça ?
Oui. Oui, notamment le traitement qui est fait par les mass médias.
D'accord. Ce que j'ai à dire sur ça, c'est que on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup la parole à des réacs antiféministes de droite qui, finalement, nous stigmatisent toutes comme des hystériques. D'ailleurs, c'est un terme médical qui est mal utilisé, par ailleurs. Mais toutes comme des hystériques veillant un matriarcat absolu et qui ne savent pas débattre et qu'on est trop extrême et que... Non, voilà, ils se fourvoient complètement. C'est juste que ils ont peur de perdre finalement ce qu'on appelle leur virilité en soi. Mmh. Donc, c'est cette image qu'on a de l'homme viril qui prend des décisions, qui a de la thune, qui doit avoir du succès dans la vie, et puis qu'il faut qu'il soit un étalon au lit, et puis plus il a de femmes dans son lit, plus mieux il est. Bref, c'est cette chose de quel homme viril, ils ont peur de la perdre parce que ça leur convient, tout simplement.
Ouais. Voilà. Merci. Ferial, tu as levé la main, je crois.
Ouais, et ça nous a été forcé, cette image de l'homme macho et tout, dès notre enfance. Sur tous les bandes dessinées qu'on a regardées, c'est toujours la princesse qui se fait sauver par le prince. Je sais pas, on était élevés de façon que, il me faut quelqu'un pour que lui, il me protège, pour que lui, il me soutient, pour que lui, il me donne de l'argent, parce que moi, je peux pas, je dois rester à la maison. Non? Pourquoi dès l'enfance on met cette image dans... C'est un truc qui me rend folle.
Lorsque l'on voit les travaux que fait l'Institut des cadrés, on voit vraiment en tout cas un champ sémantique extrêmement déséquilibré où le garçon est quoi qu'il en soit toujours excusé, même dans ses plus viles attitudes, alors que les femmes sont condamnées et condamnables pour la même attitude, par exemple. Je prends un exemple. Elle l'aurait tenté par un décolleté plongeant et il l'aurait abattu. On est, je ne sais pas à combien on est, nous toutes, à combien on est de féminicides en ce moment en France et en Suisse, mais c'est un chiffre juste aberrant. Et lui, eh bien, victime de son amour pour elle, l'aurait abattu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un déséquilibre juste hallucinant dans la prise en charge sémantique, quoi, de la problématique des violences sexistes, quoi.
Enfin... Entièrement. Je suis tout à fait d'accord avec le point que vous venez d'ajouter. Et je recommande l'excellent compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, qui justement traite des médias et de comment est-ce qu'on parle des femmes dans les médias et qui a fait toute une série admirable, un travail vraiment admirable sur les féminicides. Où elle ressort plein d'articles qui ont relaté des féminicides et ils montrent justement ce genre d'absurdité dans le langage des journalistes. Ouais. C'est toujours, enfin, on dirait qu'il a pris un couteau et qu'il a glissé et que tout d'un coup le couteau s'est planté dans son cœur. Oups. C'est complètement aberrant. Ouais. C'est complètement aberrant.
Et puis on a cet exemple de la médicalisation des propos, de la psychiatrisation, hein, le mot, vous l'avez dit, hystérie, hystérectomie, ça c'est des mots, on se dit, mais il devrait même plus exister, quoi. Dans le langage médical, hystérectomie, ça devrait disparaître, quoi. Donc on est encore loin du compte. Alors, on va arriver doucement au terme de cet entretien. Caro, as-tu encore des questions ?
Non, c'était vraiment très complet, très 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 intéressant. Merci.
Alors moi je vous propose... Oui, pardon, oui.
Je suis navrée, je voulais juste intervenir une dernière fois par rapport aux médias. pour revenir au t-shirt de la honte, personnellement, il y a un article qui m'a extrêmement choquée. Alors, je ne sais pas si je peux, si c'est vu comme de la diffamation. Après, vous pourrez couper si je ne veux pas faire ça, mais je parle d'un article du Temps. Je ne sais plus qui est le rédacteur ou la rédactrice de ce torchon, mais le titre était « Les rebelles sexy ». Donc, je ne sais pas quel était le… Terrible. Surtout si je me dis qu'il y a eu un consensus entre plusieurs cerveaux, je me dis qu'on est vraiment tombé bien bas. Mais en soi, dire… Enfin, commencer par un titre « Les rebelles sexy », c'est tellement de l'ironie mal placée, du sarcasme vraiment très basique et puéril. Et je ne salue pas du tout ce manque de tact et ce manque d'intelligence de la part du Temps. Je trouve que c'est aberrant et c'est extrêmement rageant de se payer nos têtes à ce point-là, quoi.
Et ça, c'est, voilà, c'est récent?
Oui, c'est un article qui a été écrit soit mercredi… Non.
Ah oui, mais c'est très récent.
Mercredi ou jeudi.
Ouais. Mm-hmm. Vous souvenez qu'il y avait eu également ces manchettes terribles et mensongères de mécomptage lors de la grande manif féministe où on minimisait, on invisibilisait et puis on comptait au rabais le nombre de femmes qui s'étaient mobilisées. Elsa?
Mais de manière générale, en parlant d'invisibilisation des femmes, mais dans les médias, de toute façon, dès qu'une femme accomplit quelque chose… Bah, elle est invisibilisée. Par exemple, une femme est devenue astronaute, ou une femme a fait ci, une femme a fait ça, ou des femmes, bah, pourquoi? Mais ces femmes, elles ont des noms. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà. En règle générale, les femmes, elles sont juste invisibilisées, et puis, on regarde dans certains d'autres articles, comparé à des hommes, si on écrit des articles sur des hommes, bah là, il y a leur nom complet et tout, leur carrière et tout. Ou même dans certaines interviews, de femmes, on parle plutôt de leur vie privée, alors que les hommes, c'est plutôt leur carrière. Par exemple, c'est juste des trucs qui peuvent paraître normaux quand on lit ça, mais en fait, non. Pourquoi on ne s'intéresserait pas aussi à une carrière d'une femme?
Alors, écoutez, on arrive doucement au terme de l'entretien. Je vous remercie énormément. C'était extrêmement stimulant et enrichissant de vous entendre et extrêmement courageux. On salue, on appuie, on relaie, on fera tout ce qu'on peut pour pouvoir mettre un petit pavé dans cette nouvel édifice d'un nouveau monde. On va rappeler peut-être deux choses. C'est la pétition. Alors la pétition, comment est-ce qu'on peut la signer? On va en ligne, il y a un lien facile, ou est-ce que je mettrai moi le lien, parce que c'est un peu compliqué, hein, les adresses URL de ce genre de truc.
Alors, il est un peu compliqué, effectivement. Je pense que si on tape DIP, hashtag DIP de la honte, change.org, sur Google, que la pétition devrait
apparaître.
Sinon, elle est aussi dans la bio de tous nos Instagram, mais aussi celui du Meuf X. Donc, si vous arrivez à trouver le compte Instagram, la pétition est là-bas. On est presque 1700. Et donc, on est super contents et super fiers.
Bravo.
Et puis, ils vont pas arrêter de nous entendre.
Super. Puis nous, bien sûr, qu'on mettra tous les liens que vous m'enverrez vers les différents collectifs et bien entendu pour pouvoir signer cette pétition. Deuxième chose, la manif, on le rappelle, donc mercredi 7 octobre, mercredi prochain à 17h30, devant l'hôtel de ville, rendez-vous pour dire leur fête à qui? À Anne-Emery Thomas.
Au DIP, Thomas. La société entière, le monde même s'il faut.
Très bien, alors à 17h30, rendez-vous est pris mercredi prochain, donc à l'hôtel de ville, ici à Genève. Merci beaucoup, beaucoup. On va probablement se retrouver plus loin pour des sujets similaires et puis pour affiner encore, parce qu'effectivement, il y aurait énormément de choses encore à dire. Peut-on dire, pour en terminer, que le féminisme, que contre la culture du viol, il nous faut un féminisme anticapitaliste, un féminisme anti-autoritaire, un féminisme révolutionnaire? Est-ce que ça
vous convient?
Oui, absolument. Absolument.
D'accord. Alors, on s'arrête avec ces mots-là. Sur ces mots-là?
Okay. Merci infiniment pour votre accueil.
Avec beaucoup de plaisir.
Merci beaucoup.